quelques notes pour éviter que ça dure 3 heures. Alors, nous savons que Jésus, nous semons, d'autres arrosent, et c'est Jésus qui fait croître. On est d'accord avec ça? D'accord. Et à mon travail, je travaille dans un centre d'appel pour Canal+, et à mon travail, j'ai une douzaine de collaborateurs. Et vendredi soir, il était 19h55, on avait fait une belle journée, on avait travaillé, tout s'était passé pour le mieux, on peut dire, autant que c'est possible. Et j'ai une collaboratrice qui est juste à côté de moi, qui s'appelle Vanessa, et elle avait fait son travail, elle avait largement fait son travail. Et elle me dit, j'en ai marre, j'en peux plus, j'arrête. Comme il était 55 et qu'on finit à 20h, je dis, allez, un petit dernier appel et ça va aller. T'as fait ton boulot, un petit dernier, allez. Et on a une bonne complicité, ça se passe bien tous les deux. Elle me dit, ok. Et, elle a l'abonné qu'elle a au bout du fil. Lui dit, oh, non, moi ça m'intéresse pas, Canal+, je suis chrétienne. Alors, elle dit, ah ben, vous avez la chaîne Cato. Elle est très vive, elle ne perd pas son sang-froid, et elle lui dit, non, moi je suis plutôt protestante. Alors, vous savez, on a un micro avec le casque, alors elle lève le micro, elle lui dit, c'est quoi protestant? Puis elle remet le micro et elle a entendu l'abonné. Elle lui dit, protestante, c'est la différence avec les catholiques, on ne baptise pas les enfants déjà. Et elle commence à lui expliquer, moi je comprenais, je n'écoutais pas son appel, mais je comprenais à mi-mot ce qu'elle lui disait. Et elle, tout d'un coup, elle me regarde effarée, elle lève le micro, elle me dit, c'est dangereux. Je lui dis, non, je lui dis, ça doit être une évangéliste. Elle me dit, oui, elle m'a dit ça. Alors, je lui dis, sois tranquille, écoute. Alors, elle l'écoute et ça, elle lui dit, non, ça ne m'intéresse pas, mais j'écoute votre proposition, votre offre. Et elle me dit, moi, je suis cigane, je suis évangéliste, on baptise pas les enfants, mais je vais prier le Seigneur pour toi. Elle me dit, elle va prier le Seigneur, c'est grave. Et elle avait peur dans ses yeux, je voyais la peur. Elle avait peur, elle se dit, je ne veux pas m'en sortir. Si j'ai un accident ce week-end, vous saurez pourquoi. Alors, j'ai tenté de la rassurer, après l'appel s'est terminé. Je lui ai dit, écoute, moi-même je suis évangéliste. Ah bon? Et tu risques rien, au contraire, il peut t'arriver que des bonnes choses. Et comme elle était très pressée, elle est partie, mais elle est partie sur cette impression. Je tenais à vous raconter cette histoire parce que une cigane évangéliste qui est là au bout du fil, c'est une personne, je ne pourrais pas prononcer les mots qu'elle prononce, les gestes qu'elle fait sont tellement inacceptables dans la vie, dans notre vie. C'est tellement une autre vie. Mais cette personne, elle a eu la conscience qu'il existait une vérité, qu'il existait un absolu, et que quelqu'un allait lui parler d'elle à ce Seigneur, à ce Créateur. Et elle a été tellement impressionnée, j'ai tellement vu une sainte peur s'emparer d'elle, que j'ai compris à quel point une personne pouvait semer comme ça une parole. Et moi j'ai pu arroser un petit peu, mais je me rends compte à quel point lorsque nous apportons une parole à toute personne que nous rencontrons, lorsque l'occasion s'en présente ou même sans qu'elle se présente l'occasion, eh bien il se passe quelque chose, il se passe de toute façon quelque chose. Et nous sommes des semeurs, nous sommes des arroseurs, nous ne sommes pas plus que cela, c'est Dieu qui fait croître. Je ne sais pas, là je vais la revoir demain, nous allons continuer à travailler ensemble, et c'est une personne qui, il y a quelques mois, alors que je n'avais pas du tout ce statut que j'ai aujourd'hui de pouvoir être collaborateur avec une douzaine de personnes pour les entourer, les aider dans leur travail, eh bien, cette personne, il y a 6 mois de cela, m'a dit, écoute, j'espère que tu seras un jour notre superviseur pour nous manager, parce que c'est une personne comme toi dont j'aimerais être managé par une personne comme toi. Et quand elle est revenue de vacances, je me suis retrouvé dans cette position et elle était émerveillée, elle trouvait que c'était formidable. Alors qu'on a rien pour se ressembler. En tout cas, plus maintenant. Parce que je me souviens, il y a 40 ans maintenant, 35 ans, 40, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je me droguais tellement. Rien que d'y penser, c'est affreux pour moi. Un jour, je suis mort, je suis tombé mort. Mort. Aujourd'hui, je peux dire cela parce que c'est prouvé scientifiquement. Scientifiquement, on sait que une personne qui sort de son corps, qui voit son corps, c'est une personne qui est cliniquement mort. Au début, lorsque j'en parlais, il y a même ne serait-ce que 5 ans, lorsque j'en parlais, c'était difficile à croire. Mais je suis sorti de mon corps, je voyais mon corps qui était mort, je voyais que j'étais à force de me droguer, j'étais mort. J'avais 25 ans et je suis resté plusieurs heures, même peut-être plusieurs jours, je ne saurais pas dire exactement, mais ça a duré. Et la seule chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'étais en dehors de mon corps, que j'entendais, que je voyais, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était une chose à laquelle j'avais profondément réfléchi quand j'étais enfant. Je voulais devenir un sage. Et j'avais 25 ans, j'avais tout fait sauf ça. Sauf avoir cherché à être un sage. Et ce jour-là, je me suis dit, si je retourne dans mon corps, si j'ai encore du temps pour vivre avec mon corps, alors je consacrerai ma vie à ça. Je ne connaissais pas Dieu, juste je savais une chose, c'est que j'avais une destinée, et j'aimais le chant de mon fils. Et je trouvais ça incroyable. Je suis retourné dans mon corps et j'ai pu commencer à vivre. J'ai changé d'un jour à l'autre. Et quand je pense à cette jeune femme qui a une vie semblable, je peux vous dire que ça se voit. Effectivement, c'est une jeune femme qui est à moitié détruite et qui a un gestuel et un vocabulaire qui est franchement qui m'esquinte les oreilles à longueur de journée. Mais je vois en elle la vie possible. Et je vous invite, avec moi, à prier pour elle. Puisque cette gitane, cette zigane, lui a dit, je prierai pour toi. Alors, je crois que c'est la volonté de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Alors, nous pouvons maintenant nous lever et prier pour cette femme. Mon Seigneur, toi qui es la parole qui est venue pour mourir à notre place, afin que nous soyons libérés. Tu m'as libéré, tu m'as sauvé. J'étais mort, tu m'as sauvé, tu m'as redonné la vie pour que je puisse le faire connaître, que je puisse être un semeur. Et toi, tu fais croître dans les cœurs. Tu vois cette jeune femme, Vanessa. Tu la connais. Tu connais ses souffrances. Oh mon Dieu, avec tous mes frères et sœurs là, nous t'invoquons ce matin afin qu'elle puisse recevoir des paroles qui dispersent ces ténèbres, qu'elle puisse recevoir la lumière, qu'elle soit conduite jusqu'à la vérité et qu'elle puisse être un témoin. Oh, je t'implore avec mes frères et sœurs pour que tu fasses cela. Je sais que tu veux le faire. Mais que nous soyons attentifs, l'esprit aiguisé pour pouvoir apporter la parole qu'il faut. Et je te prie aussi pour tous ceux qui ont déjà semé dans le cœur d'une personne qui leur est chère ou qu'ils ont rencontrée, afin que cette personne aussi puisse avoir l'occasion de voir ta main agissante, que les cœurs soient changés, brisés, bouleversés, transformés, et que la vie règne, se développe, et que ton royaume grandisse. Merci pour cela, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es la vérité et la vie. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Notre frère Dupal n'est pas là. Où il est? Il faudra qu'on l'appelle. Je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Ça fait deux dimanches qu'on ne le voit pas. Hein. Jean 18, 37 à 38. Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ? » Asseyez-vous. Merci. Hier après-midi, j'étais dans mon bureau et je lisais la Bible, je priais, je demandais à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux que je dise demain à ton peuple du sanctuaire qui sera réuni là-bas, à la chapelle, et à tous ceux qui écouteront le message sur Internet et ceux qui regarderont à la télé là-bas en Afrique francophone. Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Et j'avais toujours une pensée qui revenait. Mais je dis, mais ça, c'est pas important de dire ça. Pourquoi dire ça? Et puis finalement, j'ai commencé à mettre quelques notes sur des papiers. Et puis, j'ai continué à prier. Le temps passait. Et je trouvais toujours rien à part ces quelques petites notes et ces quelques petites idées. Et je me disais, mais comment ça correspond à aucun problème, à aucune chose que je connais dans la vie de mes frères et sœurs. Et le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu en sais? Alors, je dis, bon, et quand je vous dis, le Seigneur m'a dit, j'ai pas entendu une grosse voix qui m'a dit, qu'est-ce que tu en sais? Je ne suis pas dans Camilio, hein. Mais dans mon cœur, tout d'un coup, je me suis dit, mais frère, qu'est-ce que tu en sais? Bon, puisque ce sont des idées qui me viennent, je vais les partager. Il était une fois, vous connaissez ? Il était une fois un homme qui rêvait. Et il rêvait qu'il se trouvait dans une immense salle où étaient réunis les représentants de toutes les religions du monde. Et il s'est rendu compte, en écoutant les uns les autres parler, prendre la place de temps en temps, que beaucoup de religions avaient beaucoup de choses qui semblaient très agréables, très désirables, très dignes. Et puis, toujours dans son rêve, à un moment de pause, parce que c'est bien, vous savez, dans les séminaires, maintenant, ils ont compris, ça dure plus 5 heures de file, toutes les 50 minutes, ils s'arrêtent, et puis on peut avoir un moment pour respirer. Ils se sont rendus compte qu'au bout de 50 minutes, on décroche, hein. Donc, c'est comme ça maintenant. Au bout de 50 minutes, donc, dans ce rêve, cet homme, il se lève, il va faire quelques pas, et puis voilà qu'il rencontre un couple de la communauté du sanctuaire, c'est-à-dire un couple, voilà, de vous, un couple d'entre vous. Et ils commencent à discuter, et puis cet homme dit, qu'est-ce qui est exigé des membres de la communauté du sanctuaire? Et ce couple sourit en disant, mais rien n'est exigé. Ah bon? Non, mais le Seigneur Jésus exige, lui, que nous lui consacrions tout. Ce n'est pas l'Église, c'est Jésus. Ah. Et le couple lui parle de leur appel pour vivre en communauté, et puis des réunions en famille, à l'hôtel personnel, quand chaque personne a son hôtel dans son appartement, dans la communauté, chacun prie personnellement, mais aussi chaque jour des réunions de famille où on prie, où on lit la parole de Dieu. Ce couple continue en racontant qu'il y a des réunions de la communauté à 5h30 tous les mercredis matins où tous sont invités à venir pour prier, intercéder pour toutes les personnes qui nous écrivent sur le site Révélation Bible et d'autres lettres que nous recevons à gauche à droite. Nous avons donc ce ministère d'intercesseurs. Et puis ce couple continue en parlant des réunions d'enseignement tous les vendredis soirs auxquelles on est tenu d'assister, au culte d'adoration tous les dimanches matins à 10h30, des missions d'évangélisation trois fois par année en Outre-mer, des évangélisations hebdomadaires sur les marchés et des heures passées dans la recherche minutieuse de nos ancêtres et des ancêtres de ceux qui nous font des demandes et des heures interminables passées dans le baptistère du sanctuaire pour baptiser les morts selon qu'il est écrit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 et puis des efforts humanitaires, des collectes qui sont faites et des efforts sur le terrain au travers de notre association C'est Faisable et puis des repas préparés, des milliers de repas préparés par les frères et par les sœurs chaque jour et de l'entretien du sanctuaire et de son parc qui n'est pas petit. Ah bon, dit le monsieur dans le rêve. Et il est un peu abasourdi et il dit, et financièrement, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qu'il est exigé de vous? Et encore une fois, le couple sourit et dit, mais l'Église n'exige rien, mais le Seigneur Jésus, lui, exige de tout vendre. Vends tout et suis-moi, de tout vendre au début, de déposer la somme ainsi récoltée au pied des envoyés de Dieu et le partage est fait entre chacun selon les besoins de tous, comme dans l'Église primitive. Mais c'est pas l'Église qui l'exige, c'est Jésus qui l'exige dans la Bible. Et ensuite, chacun travaille et chacun participe à tous les frais d'entretien du château, de la nourriture, du chauffage, de toutes ces choses, des réparations. Et Jésus est clair, si quelqu'un ne travaille pas, il ne mange pas. Ah bon? Et puis il y a les dîmes, et puis il y a les offrandes. Ah bon? Dit le monsieur de plus en plus perplexe. Alors il dit, mais qui peut avoir envie de vivre dans une telle religion qui nous bouffe tout notre temps, tout le temps? Et le couple sourit, se regarde, sourit, puis répond au monsieur, on se demandait quand c'est que vous alliez nous poser la question. Eh bien, alors que l'Église de par le monde connaît une diminution de leurs membres, la communauté du sanctuaire construit entre 5 et 10 nouvelles églises d'environ 500 membres chaque année de par le monde. Alléluia! Elle est très active dans l'aide humanitaire pour faire des écoles. Là, on vient d'inaugurer un nouvel orphelinat, 250 enfants. On fait de l'élevage, il y a des fabriques de savon qui font travailler des femmes qui ont été abandonnées avec leur... par leur mari, et ensuite il y a aussi des hectares de culture de maïs, de riz, de mil, tout ça, ça donne du travail, ça fait manger des gens, des centaines de personnes. Quand il y a un coup dur dans un village à cause de l'intempérie ou de quoi que ce soit, eh bien, on nourrit ces personnes. Ça nous donne de la fierté, ça nous donne un contentement. Pourquoi ce succès? Eh bien, il y a beaucoup de raisons à ça. Mais je vais vous en donner quelques-uns. La première raison, c'est que la communauté du sanctuaire, c'est l'église que Jésus est en train de rétablir telle qu'elle était au début à Jérusalem, là où nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était mis en commun, et ils avaient un seul cœur, une seule âme, ils s'aimaient les uns les autres, ils mangeaient ensemble dans la paix, la tranquillité. Et ça, c'est quelque chose que Jésus est en train de rétablir. Il est écrit dans Actes chapitre 3 que Jésus ne reviendra pas avant que tout soit rétabli. Eh bien, nous sommes participants à ce rétablissement. On n'est pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres qui font ça. Mais nous sommes contents que nous, ça nous concerne nous. Et nous avons comme direction, comme organisation, celle que nous trouvons dans les Écritures, ni plus ni moins. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de règles écrites, à part nous aimer les uns les autres. L'organisation, elle est inspirée par le Saint-Esprit, selon simplement Acte 2, Acte 4. Ça peut paraître bizarre que ça soit si simple, mais c'est pas si simple que ça, c'est énorme. Parce que c'est la plus grande force du monde qui est mise là, en fonction, en marche, l'amour. L'amour fraternel. Dans la communauté de sanctuaire, vous trouverez l'autorité personnelle d'agir au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de passer par un sacro-saint ministère pour faire les choses. Vous êtes revêtus de la prêtrise vous-même, selon qu'il est écrit que nous sommes un peuple de prêtres, de sacrificateurs, et vous pouvez faire les choses, imposer les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la guérison des malades, vous pouvez baptiser les gens pour la rémission de leurs péchés, vous pouvez conférer la réception du Saint-Esprit par l'imposition des mains, vous pouvez sceller sur la terre et dans les cieux, tout ça parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous êtes un membre du corps de Christ, parce que Jésus-Christ habite en vous, vous pouvez agir en son nom. Avoir la foi en Dieu, oui, mais Dieu a la foi en nous. Et nous confie l'autorité qui est sur son nom. Les personnes qui se joignent à l'Église aiment le Seigneur, c'est pour ça que tout cela se fait. Ce n'est pas parce que c'est une obligation. Ils veulent le suivre. Bon, ces personnes se réjouissent aussi de voir que Dieu parle de nouveau. Vous savez que depuis Malachie jusqu'à Matthieu, il n'y avait plus de prophètes. C'était à peu près 400 ans, je crois. Et pendant le temps, depuis le Moyen-Âge, il n'y a plus eu de prophètes non plus. Il y a eu des gens qui ont bricolé, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de trouver comment faire et exhorter le peuple et faire le mieux possible. Mais c'était difficile pour eux parce que les choses avaient été abandonnées, la vérité avait été abandonnée et il a fallu que certains réforment et puis rétablissent petit à petit des vérités de base, basiques. On en était venu au point où le salut était à vendre. Et il y avait des indulgences, vous pouviez... Enfin bon, c'était une horreur, il a fallu... Et pendant quelques siècles, depuis 1500 à peu près, les choses se sont rétablies petit à petit, et maintenant on arrive au point où l'Église ressemble de plus en plus à ce qu'elle était au départ. Comment elle était au départ? Ben, vous lisez dans la Bible, vous verrez comment elle était au départ. Et ces personnes se réjouissent de savoir que Dieu parle de nouveau, c'est-à-dire que les ministères sont rétablis. Il n'y a pas que des pasteurs, il n'y a pas que des évangélistes, il y a aussi des apôtres, des prophètes, des docteurs, il y a tout ça. Où sont les prophètes? Où ont été les prophètes pendant tout ce temps? Dieu a rétabli ces choses. Et ces personnes qui vivent peuvent ainsi, près du Seigneur, peuvent ressentir le pouvoir de Jésus-Christ dans leur propre vie d'une façon tout à fait consciente. Elles peuvent ressentir, même, j'aime pas tellement ce mot, mais ressentir la présence du Seigneur avec eux. Ces personnes, quand elles lisent les Écritures, ça a été interdit longtemps, la lecture des Écritures. Ma grand-mère même me disait, qui était une protestante, ma grand-mère en Suisse, elle disait, oh, « Faut pas lire la Bible. Ah non, non, c'est dangereux. » Un petit peu comme ta dame là, à ton boulot, dangereux de lire la Bible. Ça avait été interdit. Évidemment, comme ça, vous savez, quand on interdit l'accès à la connaissance, après on peut diriger les gens dans n'importe quoi et avoir autorité sur eux. Maintenant, quand ces personnes qui entrent dans ce rétablissement de toutes choses que Jésus est en train d'opérer, elles peuvent lire les Écritures et écouter les serviteurs de Dieu qui enseignent et se rapprocher de plus en plus de la vérité, c'est-à-dire de Jésus lui-même. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Une autre raison, c'est que la communauté donne des occasions de faire le bien. Et ça, c'est gratifiant. Croire en Dieu, c'est louable, c'est bien. Mais la plupart des gens veulent plus que simplement croire en Dieu, aller poser son derrière dans une église, écouter des sermons. La plupart des croyants veulent plus que simplement rêver de leur demeure future dans le ciel. Ils veulent plus, ils veulent se mettre au travail, ils veulent retrousser les manches, ils veulent s'engager dans cette grande affaire de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui se passe quand ils nous rejoignent. Ils ont de nombreuses occasions de traduire leur talent, leur compassion, leur temps en bonnes œuvres. Après, c'est plus le temps de pécher, dis-là. La plupart des gens veulent plus que simplement aller à l'église. Ils veulent être l'église. Être le temple de Dieu. Dieu n'habite pas les temples faits de main d'homme, mais il habite dans ceux qui croient en lui. C'est vous les temples. Ils veulent, les gens, de plus en plus être responsables dans l'œuvre de Dieu sur cette terre. Faire quelque chose au nom du Seigneur. Aimer au nom du Seigneur. Bénir au nom du Seigneur. Aider au nom du Seigneur. Et on ne voit pas ça comme un fardeau, mais on voit ça comme des occasions extraordinaires d'accomplir l'alliance qu'on a fait avec lui au départ, lorsque nous nous sommes fait baptiser. Et on le fait avec joie. On le fait avec joie. La troisième raison, il y en a beaucoup, je vous ai dit, mais je vous en donne deux ou trois. La troisième raison pour laquelle les gens se joignent à cette sorte d'église, c'est que le chemin du disciple, Luc 14, 33, c'est-à-dire celui qui renonce à tout, non pas parce que l'Église l'oblige, mais parce que Jésus dit de le faire, eh bien, le disciple, Luc 14, 33, est conduit dans de précieuses bénédictions. Parce qu'à celui qui donne, il est donné. Parce qu'à celui qui donne, Jésus dit, je donnerai une mesure bien secouée et qui déborde. C'est-à-dire que tu donnes quoi au départ? On a donné quoi au départ? Et regardez ce qu'on a reçu. Amen. Mais au départ, on ne savait pas qu'on allait avoir tout ça. Il fallait la foi. Eh bien, le Seigneur a béni. Et nous considérons que les quatre clés qui se trouvent dans Actes 2, 38, 40, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, recevez le Saint-Esprit, et toutes ces autres paroles que l'apôtre a dit, qui a fait que les gens ont tout vendu pour venir vivre en communauté, eh bien ces quatre clés-là sont le point de départ du voyage du disciple. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus. Vous savez quoi? Le mot chrétien, ce n'est pas Jésus qui l'a inventé. C'est les païens qui ont appelé les disciples de Jésus des chrétiens. Et puis, au fil des siècles, on a repris ce mot. Qu'est-ce que vous êtes? Chrétien. Ah, ben non, moi je ne suis pas chrétien. C'est associé à trop de choses négatives. Je suis simplement un disciple de Jésus-Christ, comme il y en a dans toutes les églises. Il y a des disciples dans toutes les églises. Et puis, il y a aussi des figurants, hein, des gens qui viennent juste poser leur derrière. Et puis, quand ils sortent, ils vivent comme des païens. Nous voulons être des disciples de Jésus-Christ parce que, au fait de se discipliner, Dieu ajoute la bénédiction. Nous considérons donc que ces quatre clés-là sont le point de départ, c'est ce qui ouvre la porte pour marcher sur un nouveau chemin. Puis, marcher tous les jours avec Jésus, eh bien, ce n'est pas difficile. Ça apporte la paix, ça donne la paix, ça donne un but dans la vie, ça nous amène jusqu'au salut éternel, mais vous voulez quoi de mieux? Aussi, les gens qui suivent fidèlement ce chemin, ils évitent un grand nombre de pièges, un grand nombre de chagrins, un grand nombre de regrets qu'on peut trouver sur cette vie, dans cette vie mortelle. On les évite. Pourquoi? Parce qu'on a un enseignement qui nous dit comment faire, où et quand. Les Saintes Écritures, ce n'est pas simplement un recueil de bonnes pensées. C'est mon GPS qui me dit où je vais. Voilà, maintenant, tournez à droite, tournez à gauche. Et un jour, j'entendrai cette phrase extraordinaire. Vous êtes arrivé à destination. Ah, j'espère que c'est aujourd'hui. J'espère, l'apôtre Paul en était au point de dire, la mort m'est un gain. J'aime bien vivre, mais je me réjouis de partir avec mon Seigneur. D'ailleurs, je suis en chemin pour y aller. Et un jour, ça va arriver, comme on a chanté le vieux pèlerin, là. Moi, je suis content, je ne suis plus un jeune pèlerin, je suis un vieux pèlerin. Je suis content d'être un vieux pèlerin qui arrive au bout de son chemin. J'espère que c'est bientôt l'heure. Je rigole pas, hein, je suis sérieux. Je me réjouis de voir ce Seigneur que j'ai adoré, que j'ai servi du mieux que je pouvais avec ma petite tête et mon grand cœur. Bon, les gens qui suivent fidèlement ce chemin, ils évitent des tas de pièges. Les gens disent, oh mais ça va être difficile. Non, moi je trouve que c'est la vie quand je ne connaissais pas Jésus qui était difficile. C'est là que c'était difficile. La confusion, les questions sans réponse, les difficultés qui nous sautent à la figure, des trucs épouvantables dans lesquels on se met parce qu'on ne sait pas. Et puis, ceux qui se sentent pauvres en esprit devant un Dieu si grand, ceux qui ont un cœur honnête, trouvent un trésor de connaissances. Un trésor de connaissances. Ceux qui souffrent, ceux qui sont affligés, trouvent la guérison pour leur être intérieur, mais aussi pour leur corps. Combien avons-nous vu de miracles? Rien que cette année, sans parler même de ceux qu'on a vus en Afrique, combien de miracles cette année en France, ici? Je ne sais même plus, il faudrait qu'on compte. Il suffirait qu'on regarde les photos sur l'iPhone, parce que chaque fois on a fait des photos. Mais Dieu est grand. Des jambes qui se rallongent, des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent. On en a vu tellement. Ceux qui portent le poids du péché trouvent le pardon, la liberté, trouvent le repos. Des milliers ont été conduits à Jésus par la communauté. Je vous dis ça, c'est un encouragement pour vous. Vous n'êtes pas là simplement si ce matin vous êtes un peu découragé. Eh bien, rappelez-vous toutes ces bonnes choses. Des milliers ont été conduits à Jésus par la communauté. Cependant, Il y en a qui ont quitté aussi l'Église et qu'ils ont aimé autrefois. Alors, on pourrait se demander, mais si l'Évangile qui est rétabli en cette époque est si merveilleux, pourquoi certains le quittent-ils? Il faut aborder ces questions. On suppose parfois que c'est parce qu'ils ont été offensés, ou parce qu'ils étaient paresseux, ou parce qu'ils étaient pécheurs. Et... En réalité, ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Il n'y a pas qu'une bonne raison qui s'applique à toutes les situations. En tout cas, ici, nous respectons leur choix, et ça nous brise le cœur, ça nous fait mal au cœur de les voir nous quitter, mais nous respectons leur droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant comme ils l'entendent, selon les inspirations de leur conscience, tout comme nous réclamons le même droit. Vous voyez? C'est tout simple. C'est tout simple. Ça brise le cœur, ça fait mal au cœur. Mais bon. Chacun est libre. Certains ont des questions qui sont restées sans réponse au sujet de choses qui ont été faites ou qui ont été dites. Et nous reconnaissons qu'en 36 ans de vie communautaire, nourrie de façon ininterrompue d'événements inspirés, heureux, honorables, divins, tout ce que vous voulez, il s'est fait et il s'est dit des choses qui pourront amener les gens, c'est vrai, à se poser des questions. C'est certain. Parfois, il y a des questions qui surgissent parce que tout simplement, nous n'avons pas encore tous les renseignements. Hein? Il nous faut juste un peu de patience jusqu'à ce qu'on ait tous les renseignements. Et lorsque toute la vérité sera pleinement rétablie, alors les choses qui n'avaient pas de sens à nos yeux seront absolument résolues pour notre plus grande satisfaction. On dira, ah ben j'ai bien fait de persévérer même si je n'avais pas tout compris. Parfois, il existe une différence d'opinion au sujet de faits. Bon, on se demande, voilà, qu'est-ce que ça signifie réellement là, ce qui a été fait? Pourquoi ça a été fait comme ça et comme ça? Pour être tout à fait franc, il a pu arriver que des membres de la communauté ou ses dirigeants ont commis des erreurs. C'est clair. Il a pu se dire ou se faire des choses qui n'étaient pas conformes à nos valeurs, qui n'étaient pas conformes à nos principes ou même à notre doctrine. Je suppose que la communauté sera parfaite quand les gens seront parfaits. Je suppose que la communauté serait parfaite si nous étions tous parfaits. Dieu seul est parfait et sa doctrine est pure, mais il a choisi d'œuvrer par des intermédiaires, par des hommes, par ses enfants. Et ses enfants sont imparfaits, et voilà, les gens imparfaits, ça fait des erreurs. J'ai lu une phrase dernièrement pleine de sagesse. S'il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes. C'est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu afin d'être trouvés sans tâche devant le siège des jugements du Christ. Ça a toujours été ainsi et ça sera toujours comme ça. Jusqu'au jour où Jésus viendra pour régner et là, ça sera parfait. C'est dommage que certains ont trébuché à cause des erreurs commises par des hommes. Je ne dis pas ça seulement pour notre communauté, mais pour partout, partout. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce qui se trouve dans son église, la vérité qui s'y trouve n'est pas ternie, elle n'est pas diminuée, elle n'est pas détruite à cause de ça. Je témoigne que tout ce qui est important, tout ce que nous avons décidé, tout ce que nous avons choisi, nous l'avons fait dans un esprit de ferveur. Je témoigne que nous avons toujours cherché le secours de l'inspiration de Dieu et l'approbation de notre Seigneur dans tout ce que nous avons cherché à établir. Vous savez, Dieu ne nous laissera pas nous éloigner du cours qu'il nous a affecté, ni manquer notre destinée, comme tu chantais tout à l'heure. Il n'y a pas de membre dans la communauté qui ne soit pas un jour ou l'autre à se débattre dans des questions graves et épineuses. Tous, on passe un jour ou l'autre là-dedans. Et un des buts de l'Église, c'est toujours de cultiver la graine de la foi. Même dans un terrain sablonneux, même dans un terrain mouvant, où il y a des doutes, où il y a des incertitudes, on veut cultiver la foi. La foi, c'est espérer dans des choses qui ne sont pas vues, mais qui sont vraies. C'est pourquoi je vous en prie, mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez sur le net, doutez de vos doutes avant de douter de votre foi. Nous ne devons jamais permettre à nos doutes de nous tenir prisonniers. On ne doit pas permettre à nos doutes de nous tenir éloignés de l'amour, de l'affection fraternelle, de la paix, des dons que Dieu nous a accordés tant que nous avions la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas permettre aux doutes de nous priver de tout cela. Certains pourraient dire, mais je ne me sentirai pas à ma place parmi les gens de la communauté. Si vous pouviez voir notre cœur, eh bien, vous pourriez voir certainement que vous avez plus votre place avec nous que vous ne le supposez. Vous verriez nos aspirations profondes et nos espoirs, ils ressemblent aux vôtres. Parce qu'on est des êtres humains qui désirons le bien. Alors votre passé, votre éducation peut vous sembler différent de notre passé, de notre éducation. Ce que vous percevez chez les membres de la communauté, par exemple Philippe qui vient nous raconter qu'il était un drogué, vous dites, mais moi je n'étais pas un drogué. Mais frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin des talents de tous. L'Église de Jésus-Christ a besoin des talents de tous, de votre point de vue unique. Nous avons besoin de tout ça, de la diversité des personnes. Dans le monde entier, c'est une force pour l'Église de Jésus-Christ. Certains pourraient dire, mais je ne pense pas pouvoir vivre à la hauteur de vos principes. Ben, raison de plus pour venir. Parce que Jésus est venu pour qui ? Ben, pour des gens imparfaits, comme vous et moi, pour des gens qui ont des difficultés, comme vous et moi, pour des gens qui sont épuisés. Alors, vous ne pensez pas pouvoir vivre à la hauteur de nos principes ? Mais ce n'est pas nos principes, c'est les principes de Jésus-Christ. Et Jésus vous invite, il invite qui ? Vous qui êtes fatigués et chargés, qu'est-ce qu'il dit ? Attendez que ça aille mieux, puis venez avec moi pour nous. Non, non, venez, je vous donnerai du repos. Amen. La communauté est remplie de personnes qui désirent de tout leur cœur respecter leurs commandements. On n'y arrive pas toujours, mais on a ce profond désir. Même si on n'a pas encore réussi à maîtriser toutes les applications, on en a ce profond désir et on fait des efforts chaque jour. Certains pourraient dire... Je connais un membre de la communauté qui est hypocrite. Et je ne pourrai jamais entrer dans une communauté où il y a un hypocrite comme ça. Ben, mes frères et sœurs, et vous qui dites ça, vous êtes dans le même sac. On est tous des hypocrites. On est tous des hypocrites si vous définissez les hypocrites comme des gens qui n'arrivent pas à vivre de façon parfaite ce qu'ils croient. Oui. Vous voulez que je répète ? Nous sommes tous des hypocrites si la définition du mot hypocrite est pour vous une personne qui n'arrive pas à vivre parfaitement ce qu'il croit. Personne parmi nous n'est tout à fait semblable à Jésus-Christ. On travaille à cela. On veut lui ressembler, on veut être ses imitateurs, comme nous exhorte l'apôtre Paul. Personne parmi nous est tout à fait semblable à Jésus-Christ comme nous savons que nous devons l'être. Il est écrit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On doit l'être. On est en chemin, disons. Nous aspirons sincèrement à surmonter nos fautes. Nous aspirons sincèrement à ne plus pécher, à ne plus se soumettre à ce péché qui nous taraude, qui veut absolument nous pousser à gauche, à droite. Nous voulons devenir meilleurs avec l'aide de Jésus-Christ. Tout chrétien. Tout véritable chrétien en est là. Si c'est ce que vous désirez, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre histoire personnelle, quelle que soit la force de votre témoignage, il y a de la place pour vous dans cette église. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a de la place. Si vous cherchez chez nous des gens parfaits, vous allez être déçus. Mais si vous recherchez la vraie doctrine de Jésus-Christ, la parole de Dieu, alors vous allez être contents. Cette parole qui guérit l'âme blessée, qui guérit le cœur, qui guérit le corps. Si vous cherchez l'influence sanctificatrice du Saint-Esprit, alors vous les trouverez ici. C'est ça qui a le plus de valeur dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous aimons le suivre. À cette époque où la foi diminue, où il y a tant de personnes qui se sentent éloignées des bras aimants de Dieu, vous trouverez ici des gens qui aspirent à connaître leur Sauveur, à se rapprocher de lui, à servir les uns et les autres et à servir Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Je me rappelle d'un moment qui est arrivé dans la vie de Jésus où la plupart des disciples l'ont abandonné. Puis les 12 sont restés. Et Jésus leur a dit, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et Pierre lui a répondu, « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel. Mes frères et sœurs, tenez-vous-en comme Pierre aux paroles de la vie éternelle. Où est-ce que je peux vivre cette parole qui mène jusque dans la vie éternelle, qui crée en moi cette vie éternelle, cette vie de qualité de l'éternel? Marchez à la suite de Jésus, mes frères et sœurs. Prenez votre croix. Rejoignez-nous dans cette marche extraordinaire, parce que c'est extraordinaire de vivre avec Jésus. Ça n'est pas ordinaire. Ce n'est pas comme monsieur et madame tout le monde. On ne ressemble pas à monsieur et madame tout le monde. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Oh Seigneur, il ne faut pas exagérer. Si Jésus dit que vous l'êtes, vous l'êtes. Oui, mais c'est une lumière qui clignote. Non. Dieu te voit bien. Il te voit bien. Fais-lui confiance, parce que vous trouverez ici ce qui est sans prix, la parole de la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui change les vies. Ce n'est pas les arguments. Ce n'est pas le fait d'être entre personnes qui s'aiment bien les uns les autres. Ce n'est pas ça qui change la vie. Ce qui change la vie, c'est de connaître la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la parole. Et il a permis que cette parole-là, les principales paroles qu'il a prononcé soit là, afin qu'on ait une carte de route pour bien nous diriger, pour bien savoir ce qu'on a à faire, comment on doit le faire et en quel temps on doit le faire. Mes frères et sœurs, je prie sincèrement pour que votre quête de la vérité, à vous tous, que votre quête de la vérité suscite en vous le désir de nous rejoindre, de rejoindre Jésus-Christ, de marcher avec lui. Je prie sincèrement que cela soit quelque chose qui vous arrive, que votre cœur soit touché et que vous rendiez compte que Jésus revient bientôt et qu'on n'a plus le temps de jouer aux chrétiens. Il faut être chrétien. Je dirais même plus, il faut être disciple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie ce matin pour ce message étrange, bizarre, que j'apporte. Merci mon Dieu de permettre que cela puisse trouver le chemin de quelques cœurs et de réconforter ceux qui s'étaient peut-être un peu éloignés, ceux qui avaient été déçus, ceux qui s'étaient laissés attrister par des faits réels, par des paroles réelles, qui avaient été maladroites, pas gentilles. Merci Seigneur de ramener dans la bergerie ceux qui étaient fatigués et de les aider à marcher en nouveauté de vie avec cette parole certaine, cette parole vivante, ta parole, qui est pour nous comme une lumière sur notre sentier personnel, mais aussi sur notre sentier d'être humain. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors.